Bonjour le Book Club, bonjour Jean-Baptiste Delamo. J'ai lu votre livre La Nuit Ravagée et ça a été un de mes plus gros coups de cœur du printemps. J'ai adoré parce qu'au-delà d'un roman fantastique sur les maisons hantées, on est vraiment sur un roman sur l'adolescence et le fait de grandir et de prendre ses responsabilités.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un lotissement, une maison hantée, les années 90, aujourd'hui dans votre book club, trois territoires en somme qui permettent de déployer une fiction suffisamment ample pour que les angoisses adolescentes, les désirs, les amitiés et les relations avec la mort puissent vibrer fort. C'est toute la réussite du dernier roman de Jean-Baptiste Delamo, écrit selon l'auteur dans un état second propice aux visions. Un roman dont la tension réside souvent dans l'impossibilité de dire ce qu'on a vu ou vécu ou cru vivre. Jean-Baptiste Delamo est l'invité de votre book club. Ensuite, nous retrouverons Fanny Taillandier. Pendant 6 semaines de résidence, elle a sorti des livres de sa bibliothèque en fonction de l'actualité. Pour vous, pour nous, aujourd'hui un mini-bilan de l'exercice et une illumination. C'est le roman La Route des Flandres de Claude Simon qui lui permet de tenir tête face à l'assaut de violence des dernières nouvelles. Elle nous raconte. Et bien sûr, enfin, on jouera au grand jeu des pages musicales. On est ensemble pendant 1 heure, ça fait plaisir. Bienvenue à toutes et à tous dans le book club. Bonjour Jean-Baptiste Delamo.
Bonjour Marie Richeux.
Votre livre La Nuit Ravagée a paru aux éditions Gallimard, comme vos précédents romans, par exemple Règne Animal, Le Fils de l'Homme, Pornographia ou Une Éducation Libertine. Soyez le bienvenu dans le Book Club de France Culture, on est ravis de
Merci
vous accueillir.
Merci beaucoup, je suis ravie aussi.
Ici, on commence toujours par faire connaissance avec nos invités, en imaginant qu'ils ont rencontré ou pas des livres sur leur chemin. Déjà, est-ce que ça vous paraît être une bonne méthode ?
Oui, j'aime bien cette idée-là. Je crois que les écrivains sont fondamentalement avant tout des lecteurs.
Donc on peut potentiellement faire connaissance avec vous en entrant par un questionnaire lecture.
Tout à fait, ouais.
Puisqu'on va beaucoup parler de maison et d'espace, est-ce que vous avez grandi dans une maison où il y avait plutôt des livres ou plutôt pas, ou plutôt un peu ?
Non, mes parents n'étaient pas spécialement des lecteurs. En revanche, ils ont su très tôt percevoir l'intérêt que moi je portais aux livres. Donc ils m'ont rapidement conduit vers les livres. Et à l'époque, et dans cette zone du sud-ouest de la France, c'était surtout les bibliothèques municipales en fait, qui permettaient d'avoir accès aux bouquins.
Comment est-ce qu'ils ont connaissance de votre intérêt pour la lecture ? Et quand vous dites très tôt, c'est très tôt comment ?
Alors, c'est pas si tôt que ça en réalité, parce que... Pour être tout à fait honnête, mon apprentissage de la lecture et de l'écriture a été très laborieux.
Avant d'aimer.
Je me souviens en classe de CE1 d'être très en retard par rapport à mes camarades quand il s'agissait de déchiffrer des mots, d'être à peu près incapable de les recopier si ce n'est lettre par lettre en relevant la tête vers le tableau. Ce qui d'ailleurs a suscité un peu l'inquiétude de mes instituteurs qui ont conseillé à mes parents de m'envoyer dans, à l'époque c'était un CMPP, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça aujourd'hui, un centre médico-psychopédagogique, parce qu'il semblait que j'avais un retard d'apprentissage en réalité. Et j'en ai conçu, je crois, une forme de peut-être de complexe un petit peu.
Vous le saviez, vous le sentiez à l'époque.
Je savais qu'il y avait quelque chose de pas normal, en tout cas dans ma capacité d'apprentissage. Mais dès que j'ai réussi finalement à accéder à la lecture et à déchiffrer les premiers mots, je me suis mis à lire à peu près tout ce qui me tombait entre les mains. Et même, je me souviens en voiture, par exemple, de déchiffrer inlassablement tous les panneaux que je pouvais croiser, etc. Parce qu'il y avait une forme d'émerveillement de ma part à être enfin capable de donner sens à des lettres.
Donc ça arrive, on va dire, vers le CE2, CE1.
Oui, c'est ça. Oui, fin CE1, je pense, CE2, ouais.
Et à ce moment-là, est-ce que vous vous tournez aussi vers des livres à la bibliothèque municipale ? Est-ce que vous avez plaisir à emprunter des livres ?
Oui.
Est-ce que vous lisez beaucoup et qu'est-ce que vous lisez ?
Alors, je me souviens essentiellement de deux textes qui étaient un album, qui était, je pense, la retranscription du film de Disney « Taram et le chaudron magique ». Qui était un Disney assez sombre, semble-t-il. J'ai justement relu, parce que j'en garde un souvenir très flou, mais j'ai relu des critiques sur ce Disney qui, à l'époque, avait suscité une forme de levée
aucun
de bouclier.
Même du titre.
C'est vrai ?
Ouais.
Ah ouais, Taram et le chaudron magique. C'est marrant parce que je me suis aperçu, en regardant des images tirées du film, que le héros a un petit cochon. Et j'ai toujours été fasciné par cet animal. J'ai moi-même un cochon de compagnie. Et j'ai compris il y a quelques jours que ça provenait...
Potentiellement, ça s'origine de cette
visionnage. Donc il y avait Taram et le chaudron magique et un autre tout petit album illustré qui était un poème de Prévert qui s'appelle Le gardien du phare aime trop les oiseaux. et qui était en réalité un poème assez dramatique. Je crois que c'était chez l'École des loisirs, me semble-t-il, et qui m'avait beaucoup touché. Je peux dire ce que c'était, ce petit livre ?
Bien sûr, ouais.
C'est l'histoire d'un gardien de phare qui s'aperçoit que dans la lumière du phare, les oiseaux sont aveuglés et viennent s'échouer contre le phare. Il se trouve qu'il adore les oiseaux, cet homme, et qu'il décide un jour de couper la lumière du phare. Malheureusement, au loin, se trouve un cargo venant des îles, un cargo chargé d'oiseaux. Et je me souviens très bien du dessin qui montrait la soute du bateau pleine de cages d'oiseaux magnifiques, colorés, d'oiseaux exotiques, qui s'échouent contre un récif et coule.
Faute de lumière.
Coule au fond des mers et donc tous les oiseaux sublimes finissent noyés. Donc c'était là aussi, c'était assez sombre finalement. Mais j'étais très ému et assez fasciné par ce poème. Donc ça a été, je crois, en tout cas c'est mes deux premiers souvenirs de lecture.
Vous avez parlé de la passion du déchiffrement dès lors que vous commencez à la maîtriser, Jean-Baptiste Delamo. Est-ce que vous avez ensuite cherché consciemment des choses dans les livres, à ce moment-là ou après ?
Oui, certainement, bien que je crois avoir été tout à fait incapable de le formuler à cette époque-là. Mais très rapidement, je pense avoir cherché des livres qui mettaient en forme certaines de mes peurs. Et en particulier, c'est advenu à la jeune adolescence quand j'ai rencontré justement la littérature de genre.
Et ça vous permettait de quoi médiatiser vos propres peurs, de les mettre à distance, de les lire donc, de les comprendre?
Je crois qu'il y a eu deux vertus. Déjà de me faire comprendre que tout était possible en littérature, parce que dans la littérature de l'imaginaire, tout est envisageable. Et pour moi, c'était une ouverture d'esprit quand même assez extraordinaire de ce que peuvent les livres. Et puis je crois en effet, alors je ne sais pas si ça me permettait d'exorciser mes peurs, ni même de les nommer, parce que c'était souvent des peurs que je n'étais moi-même pas capable
de mentaliser.
Voilà,
quoi.
Exactement. Mais je sentais qu'en tout cas, ces livres me tendaient une forme de miroir. Et je crois que c'est pour ça qu'ils m'ont très tôt fasciné. Et puis ensuite, ils m'ont aussi permis de comprendre que parce que ces livres-là, relativement populaires et qui étaient considérés comme finalement une littérature un peu de seconde zone, on va dire, puisque ces livres-là m'étaient accessibles, sans doute que les livres considérés comme des livres de littérature acceptables l'étaient aussi. Et ça, c'est ensuite l'école qui a pris le relais pour moi en me proposant la lecture de classiques que j'aurais certainement cru plutôt tout à fait inaccessibles et qui se sont ouverts à moi.
Donc la littérature de genre avec deux vertus, un marchepied vers un autre chose, mais sans nécessairement imaginer que c'est plus haut ou plus bas ou c'est juste ailleurs, et l'effet miroir que ça pouvait vous tendre. Est-ce que c'est toujours ça que vous cherchez dans vos lectures aujourd'hui, ou l'expérience que vous faites de vos lectures aujourd'hui? L'idée qu'un livre puisse vous renvoyer un reflet de vous à un moment donné de votre existence?
Alors certainement, j'ai l'impression qu'en tout cas ce que je recherche aujourd'hui dans les livres, c'est à la fois une expérience poétique, formelle. Je suis très sensible aux livres qui explorent des formes nouvelles, qui travaillent sur la langue, mais aussi bien évidemment des livres qui m'amènent à explorer des zones plus sombres de notre humanité. Moi j'aime les livres qui me confrontent, qui me déstabilisent, qui me mettent mal à l'aise. J'ai une horreur absolue de cette littérature thérapeutique qu'on essaie de nous vendre aujourd'hui, une littérature qui fait du bien. Pour moi, ça n'est absolument pas la vocation de la littérature.
Vous voulez être bousculé, déplacé.
Absolument. C'est comme ça que les livres. Oui, c'est comme ça que les livres m'ont nourri dès mon plus jeune âge. C'est comme ça qu'ils m'ont fait grandir, qu'ils m'ont fait comprendre le monde. Et ça n'est pas d'ailleurs forcément thématiques ou je pense que parfois un livre peut par sa forme même m'opposer une résistance. Je pense par exemple à Sous le volcan de Laurie. La première fois que j'ai lu ce livre, j'avais une vingtaine d'années et j'ai senti qu'il me résistait. Je peinais à rentrer dedans et pourtant je ne pouvais faire autrement que d'essayer d'en percer le secret, d'en percer le mystère. Et il m'est resté de cette première lecture la sensation d'une expérience physique qui finalement a été, je crois, constitutive aussi de ce que je suis devenu en tant qu'auteur.
Vous l'avez relu ?
Je l'ai relu bien plus tard et je l'ai compris très différemment parce qu'avec sans doute une maturité que je n'avais pas à l'époque, qui m'a permis de mieux comprendre les enjeux du roman, le travail formel qui a été fait par Laurie. Mais finalement, j'ai peut-être préféré ma première lecture.
Plus difficile,
mais qui m'avait laissé dans une espèce de zone d'ombre comme ça où je comprenais pas très bien ce dont parlait ce livre. Mais par contre, je l'avais éprouvé physiquement. Et ça, ça a été une expérience importante.
Vous citez souvent des auteurs, des grands auteurs, Genet, Stephen King, Claude Simon, tout à l'heure vos opinions du chef, parce qu'on va en parler tout à l'heure avec Fanny Taillandier, mais aussi Guyotat ou une romancière française contemporaine, Marie Ndiaye. Est-ce qu'il y a, en dehors de ces noms-là, un livre qui aurait été un possible virage dans votre vie de lecteur, Jean-Baptiste Delamo, récent ou pas?
Oui, je pense que c'est La Métamorphose de Kafka. Parce que j'ai le souvenir très précis de cette scène dans laquelle le père de Grégor essaie de faire rentrer son fils dans sa chambre et qu'il saisit des pommes sur la table de cuisine qu'il lance à son fils et une des pommes vient se ficher dans la carapace de Grégor, dans son dos, à un endroit où il ne peut l'atteindre, et elle va pourrir à l'intérieur de lui. Et j'ai gardé le souvenir, là aussi, d'avoir éprouvé physiquement la présence de cette pomme dans mon propre dos. Et je pense que ça m'a fait comprendre le lien possible entre l'expérience de la lecture et l'expérience physique, de ce que peuvent les mots sur l'imaginaire du lecteur et de ce qu'ils peuvent susciter de sensations. Et je pense que bien plus tard, quand j'ai commencé moi-même, d'abord dans une tentative de reproduction, d'imitation, d'écrire, je pense que...
C'est comme ça que ça s'est présenté pour vous au début ?
Ah oui, et je pense que c'est souvent le cas pour beaucoup d'auteurs. C'est comme une forme de tentative de continuer ce qu'est l'expérience de la lecture. Et donc, on passe souvent par une phase, oui, d'imitation, où on cherche vraiment à reproduire aussi ce qu'on a lu. Après, on trouve peu à peu sa voix, sans doute. Mais en tout cas, voilà, j'ai senti que l'espace de mon écriture, c'était celui de la sensation.
Ça fait d'ailleurs deux fois que vous en parlez, que ce soit la possibilité d'entrer enfin dans le texte de Laurie ou la pomme fichée dans la carapace. Est-ce que c'est aussi ça que vous cherchez en tant qu'auteur, en le faisant sciemment ou pas, c'est-à-dire à marquer notre corps par les phrases, par la rythmique, par l'univers que vous créez, Jean-Baptiste Delamo?
Alors tout d'abord, très égoïstement, je le fais pour moi à l'instant de l'écriture, c'est-à-dire que j'essaie de verbaliser quelque chose de mes angoisses, de mes obsessions, et ensuite, à l'instant où le livre paraît, oui, il y a aussi l'espoir que cette écriture-là, elle puisse rencontrer l'imaginaire et la sensibilité de notre lecteur et lui procurer finalement ce qu'ont été les émotions pour moi de l'écriture.
Est-ce que vous avez une œuvre comme ça, éclairée par un phare, puisque vous citiez tout à l'heure le poème de Prévert, quelque chose vers quoi vous aimeriez aller, quelque chose à lire, hein, j'entends, hein, avec quoi vous aurez peut-être rendez-vous? Vous vous dites un jour, je crois que ce livre-là et moi, on se rencontrera.
Vous voulez dire comme lecteur?
Ouais, comme lecteur.
Ah oui, un livre que je n'aurais pas réussi à lire jusqu'à présent, par exemple.
Pas réussi, ou juste pas eu le temps, ou juste pas l'occasion.
Oui, je comprends. Sans doute Ulysse de Joyce, que je n'ai jamais lu. Oui, je pense que ça serait certainement ça, venir à bout de La Recherche aussi, de Proust, que je n'ai toujours pas... C'est un livre que je lis, mais depuis déjà 15 ans, je ne suis pas encore arrivé
par
au
morceaux,
bout.
Par morceaux, ouais.
Voilà, par morceaux, par étapes, je m'y replonge toujours avec la même délectation, mais je voudrais que cette expérience, elle ne finisse jamais aussi. Il y a des livres dont on repousse en fait la fin parce qu'on voudrait qu'ils ne terminent pas.
On va parler du vôtre juste après The Ghost Inside. C'est une chanson de Broken Bells. Il est aussi question de fantômes et il est aussi question de maisons hantées.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Une maison hantée aujourd'hui dans votre Book Club, une maison qui ouvre sur une autre réalité. Dans l'impasse d'un lotissement au beau milieu des années 90, dans l'inquiétante étrangeté aussi de leurs questions, leur culpabilité et leurs désirs, une bande d'adolescents fréquente le temps arrêté d'une étrange bâtisse. Là, ils retrouvent leur mort, se rencontrent, s'autorisent une sexualité qu'ils cachent parfois par ailleurs, et quand ils en claquent la porte pour sortir, rien ne laisse supposer que ce qui vient de s'y produire s'y est véritablement produit. D'où la difficulté de le dire. La nuit ravagée, c'est le titre de votre roman paru aux éditions Gallimard, Jean-Baptiste Delameau, et on en parle désormais. Il y a un prologue à ce roman et il y a aussi une postface où vous prenez la parole en tant que romancier. Dans un second temps, presque tout s'est un peu calmé. On vient juste de refermer la porte de la maison hantée et vous livrez comme les coulisses ou les conditions d'écriture de ce livre-là. D'une part, pourquoi est-ce qu'il était important de le faire pour vous? Et d'autre part, qu'est-ce que vous racontez dans ce livre-là qui serait important de dire à nos auditeurs avant qu'on parle du roman?
Alors, il se trouve que la postface ou la préface, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement en littérature de genre, comme si c'était peut-être un espace un peu plus libre dans lequel les auteurs se le permettaient. Stephen King a souvent accompagné ses textes d'une adresse au lecteur qui permettent de situer un peu mieux ce qu'a représenté tel ou tel texte à un instant donné de sa vie. Et c'était quelque chose que j'avais envie de faire, de tendre, je pense, la main au lecteur et de lui montrer aussi qu'il n'y avait aucun opportunisme pour moi dans ce souhait d'explorer le genre, en lui expliquant ce qu'il avait véritablement représenté pour moi. C'était une façon d'établir une adresse, un lien, de parler de façon plus intime aussi de qui je suis, de ce qui m'a constitué.
Vous faites référence dans cette postface à un vieux souvenir qui revient de l'adolescence et qui aurait été l'un des ingrédients, point de départ de l'écriture de ce roman, Jean-Baptiste Delameau. Vous dites, oui, voilà, il y a eu aussi, dans l'endroit où j'ai grandi, une maison. Elle n'était peut-être pas autant hantée ou hantée de la même manière que celle que je mets en scène dans ce roman. Mais dans cette maison, il y avait une cassette audio. Et ce souvenir, le souvenir de la voix d'une femme qui s'enregistre en même temps qu'elle raconte sa vie de famille, sa vie de couple, le délire de sa vie de couple et peut-être sa difficulté de vivre, et comme une sorte de voix qui serait venue vous hanter vous et irriguer votre propre écriture. On trouve trace de cette bande audio dans la fiction. Est-ce que vous voulez bien éventuellement raconter le chemin qui mènerait de ce souvenir de la vie réelle à l'écriture de la fiction, qui est une fiction qui s'assume en tant que telle, qui revendique vraiment le terrain de la fiction, Jean-Baptiste Delameau?
Alors effectivement, ça a été à la fois un événement anecdotique de mon adolescence, parce que beaucoup de gamins sont fascinés par des bâtisses abandonnées, beaucoup finissent par en passer la porte, et nous, ce que nous avions trouvé était somme toute assez ordinaire. Simplement, la maison était restée en l'état. Ces gens, cette famille avaient, semble-t-il, disparu du jour au lendemain. Et donc, nous avions trouvé ces bandes enregistrées. Je ne sais pas exactement ce qu'elles ont représenté pour moi à cet instant-là de mon adolescence, mais par contre, ce que je sais, c'est que j'ai rêvé que je retournais dans cette maison jusqu'à ce que j'écrive « La nuit ravagée ». Donc c'est que sans doute elle a représenté quelque chose à mes yeux, que sans doute elle
soit 25 ans, c'est cool à peu près,
ouais,
quand même.
Absolument.
On est d'accord,
ouais,
25
ouais.
ans de rêve.
Alors je n'en rêvais pas toutes les nuits, mais de façon assez récurrente, je rêvais que je revenais systématiquement dans cette maison. Et ça a été un des points de départ de La nuit ravagée, et je n'en rêve plus depuis que le livre a paru.
Est-ce que vous diriez, il est beaucoup question justement de ce territoire un peu indistinct, pas nécessairement d'ailleurs que le rêve dans votre roman, Jean-Baptiste Delameau, mais on va dire des espaces qui seraient des espaces mentaux pour nos psychismes, où les choses sont un peu différentes de, je mets entre guillemets, la réalité. Il y a un tremblement où on n'est pas sûr que les choses se sont passées, on n'est pas sûr de pouvoir le dire exactement comme le produit le rêve. Le rêve, c'est un bon point de départ pour vous, pour l'écriture?
C'est un très bon point de départ, et en particulier le rêve que l'on fait à l'instant de l'endormissement. ce que Proust appelait l'heure véridique. J'ai le sentiment que c'est ce point de bascule entre la conscience et l'inconscience qui fait que des images nous apparaissent et que parfois on a même le sentiment d'être capable de percer à jour la réalité. Encore faut-il être capable de se réveiller pour prendre des notes sur un carnet ou sur un téléphone.
Mais ce que vous faites ?
Oui, souvent le texte, parce que bien évidemment dans ce livre-là, même si je l'ai écrit dans un élan assez particulier, il y a des moments où je me suis heurté à des difficultés, où j'ai calé, où j'ai cru devoir abandonner. C'est toujours à cet instant de tomber dans le sommeil que j'ai réussi à résoudre le livre, comme si finalement il était aussi un organisme un peu doté d'une vie propre, comme la maison de l'impasse. Et puis je crois que c'est aussi la fonction même de la littérature, de donner à voir et à expérimenter ces espaces qui sont à la fois certes la fiction, mais qui parfois nous déplacent suffisamment pour nous donner l'impression qu'on les habite véritablement. Et en l'occurrence, pendant l'écriture de ce livre, il y a des instants où j'ai eu l'impression que, comme pour les gamins de l'impasse et le monde qu'ils vont trouver dans cette maison abandonnée, cet univers de la nuit ravagée était presque plus réel pour moi que ma propre vie.
À quoi vous vous en remettez, si vous vous en remettez à ce moment-là où il y a quelque chose qui vacille, du corps, de la conscience, etc. Ce serait quoi, vous sauriez le nommer ?
Pendant l'écriture du livre, vous
voulez
dire ?
Oui, ce moment-là, si vous dites c'est souvent à partir de ce moment-là qu'a pu se redéclencher, par exemple, l'écriture, c'est quoi ? C'est l'imagination ? C'est l'inconscient ?
Oui, c'est je crois que ça va vraiment puiser dans l'imagination, dans l'inconscient, à cet endroit où je crois... tout écrivain doit être capable d'aller puiser, c'est-à-dire suffisamment profondément en soi pour atteindre une forme de sincérité vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis du travail du roman. Et c'est toujours un instant assez excitant qui ne dure pas sur tout le temps de l'écriture, mais qui apparaît comme par épiphanie. Mais parfois ce sentiment que le roman obéit à une logique propre et que sans doute vous le portiez depuis si longtemps déjà. Qu'il s'opère par lui-même,
ouais.
C'est ça, oui. Et ça, c'est des moments assez exaltants parce qu'on se dit, oui, je vais arriver au bout parce que voilà, ça fonctionne, quoi.
Vous parlez de sincérité aussi, tout à l'heure vous parliez aussi du mot d'authenticité, et tout en étant dans le territoire de la fiction, c'est aussi quelque chose qu'invoque Stephen King. Ici dans une archive de 2013, il est au micro de François Bunel dans la Grande Librairie, il parle même d'un horizon de vérité.
Mais je crois que la chose la plus importante, c'est de débuter par des choses que nous comprenons tous avec la vie d'ordinaire. Et moi, ce que je connais, c'est la vie à la campagne. Parce que je vis dans une petite ville, c'est là que j'ai grandi, et je comprends les gens qui vivent là-bas. Mon boulot, en tant qu'écrivain, et Émile Zola dirait la même chose, et Frank Norris, Thomas Hardy,
Theodore Dreiser
dirait la même chose. La chose la plus importante est de raconter la vérité sur la façon dont les gens se comportent et la façon dont les gens réagissent à des circonstances qui se produisent. La chose importante, c'est de raconter la vérité. Et donc, je veux dire la vérité sur des petites gens. Et puis, je veux introduire cet autre élément. Ça peut être un loup-garou, ça peut être un vampire, ça peut être un clown qui vit dans les égouts et qui attrape les enfants, ça peut être un retour dans le temps pour tenter de sauver John Kennedy. Mais si je peux vous faire croire aux gens, vous faire aimer ces gens-là, le reste est facile. Non, la partie difficile, c'est de raconter la vérité, la réalité, au sujet de la vie, comme c'est dans le véritable monde. Et ensuite, les monstres, ça c'est la partie drôle.
Vous racontez la vérité, c'est la partie la plus difficile de mon travail, dit Stephen King. Je voudrais vous faire croire aux gens. C'est assez beau. C'est Michel Zdowski qui traduit la parole de Stephen King. Je sais pas quel est le terme en anglais américain, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de commencer par ça, peindre des gens qu'il connaît, un milieu qu'il connaît, une géographie qu'il connaît. Est-ce que ça a été aussi votre cas et est-ce que vous êtes animé par la même, on va dire, éthique de l'écriture, Jean-Baptiste Delamo?
Oui, certainement, ce que je sais, ce que je ressens en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes soumis en permanence à un flux de réalité. Et qu'aujourd'hui, il y a une forme de monopole, je crois, dans notre littérature française, en particulier de la littérature du réel. Je pense que la littérature du réel peut donner naissance à de grands textes. Mais souvent, pour moi, ce sont des textes qui ont le parti pris de la langue, de la poésie. Parce que je crois que la vocation de la littérature n'est pas de dire le réel, mais d'essayer d'atteindre, à percer quelque chose du réel et de dévoiler ce qui se cache derrière. Et il me semble que la forme, la poésie, dit, l'imaginaire, ce sont les seules voies qui permettent d'accéder à cette vérité-là.
Et alors cette vérité-là, pour ce qui concerne la bande d'adolescents des années 90 qui est mise en scène dans votre roman, elle touche à quoi quand Stephen King dit « j'aimerais bien vous faire croire aux gens ». Est-ce que l'idée que nous puissions croire à tous ces mômes qui vont visiter et à qui il arrive plein de choses, cela vous importe? L'idée que nous puissions croire à cette maison, l'idée que nous puissions croire ou peut-être voir ces lotissements, et j'irai même plus loin, voir ces années 90, est-ce que vous diriez que c'est une des ambitions du roman que vous signez?
Oui, c'est une des ambitions. J'essaie de transmettre quelque chose d'une foi en la fiction et en l'imaginaire, et j'espère qu'à travers ça, à travers ces personnages, à travers ces paysages, cette cartographie à la fois de ce territoire et des années 90, j'arrive à transmettre quelque chose qui pourtant est pour moi à peu près innommable, de cette inquiétante étrangeté, justement, qu'ont été et qu'ont représenté pour moi les années 90, de cette forme de mélancolie assez obscure que je pressentais adolescent.
Et en les vivant.
En les vivant, mais sans être capable de, les nommer, et que je ne peux aujourd'hui que tenter de faire revivre en ayant recours justement à ces personnages, à ces adolescents et à cette histoire-là.
Alors, quels sont vos outils? Je peux en citer quelques-uns que nous, on a attrapés à la lecture de votre roman. Des noms et des prénoms, de la musique, certaines références à des lieux, des vidéoclubs, éventuellement des films vus par ces adolescents. Qu'est-ce qui vous intéresse tant dans ces années 90? Donc, vous venez de le dire, Jean-Baptiste Delamo, déjà le fait de les avoir vécues. Et qu'est-ce que vous essayez d'approcher, de penser, de sentir et nous faire sentir de cette époque-là?
Alors, il y a effectivement inévitablement des références réalistes, parce que je crois que quand on essaie de faire revivre une époque, on ne peut pas y couper. Il faut aussi savoir évoquer toute cette culture-là de l'époque, que ce soit le cinéma ou la musique ou une culture, disons, plus sociale et politique. Mais cependant, la réalité ne m'intéresse pas tant que l'expérience physique de ce qu'ont pu être ces années-là ou l'expérience physique de ce qu'ont pu être ces adolescences-là. Donc c'est plutôt du côté de la sensation, des images, des couleurs, de l'approche corporelle de mes personnages que je vais essayer de mobiliser.
Et alors évidemment, chacun des personnages a aussi une expérience tout à fait singulière. On sent qu'il y a deux choses qui vous animent. C'est à la fois rendre une expérience physique de ce que ce serait que l'adolescence avec un grand A dans les années 90. Et en même temps, votre roman montre aussi que Mehdi n'a pas la même adolescence que Alex, qui n'a pas la même adolescence que Marie, que Tom. Il y a aussi des chemins très, très singuliers que vous dessinez. Qu'est-ce qui pourrait les relier toutes, alors, ces adolescences-là? Et si on essaye d'aller un peu plus loin, d'en capter l'inquiétante étrangeté qui en fait est rendu de plein de manières. On va arriver à la maison hantée, mais avant la maison hantée, il y a de toute façon quelque chose qui les hante, ces gamins-là. Oui. Ce serait quoi?
Je pense que c'est l'expérience d'une culture commune, que bien évidemment, eux aussi ne sont pas tout à fait capables de nommer. Le sentiment d'un empêchement, ce sont des gamins de la classe moyenne inférieure, qui se heurtent donc à cette réalité qu'ils devront sans doute répéter, le modèle parental, alors qu'ils ont d'autres aspirations, d'autres rêves. C'était primordial, je crois, de développer pour chacun des enjeux intimes, psychologiques, des arcs narratifs, parce que quand ils vont passer justement la porte de cette maison, ce qui se trouve à l'intérieur va justement se nourrir de leurs problématiques intimes. Donc je voulais vraiment prêter attention à chacun d'eux de façon très intime, et souvent je trouve qu'il est plus intéressant de raconter une époque par le prisme de l'intime que par le grand tableau politique ou social de ce qu'ont pu être les années 90. Ça, pour moi, c'est le travail des historiens ou de sociologues, mais celui des romanciers, c'est celui de l'expérience de l'intimité, de l'expérience du corps.
Oui, vous dites que ça va se nourrir de leur intimité quand ils vont passer la porte. On pourrait presque même imaginer que c'est une sorte de caisse de résonance. En tout cas, ils ont rendez-vous avec une partie d'eux-mêmes étonnante et à chaque fois différente. Jean-Baptiste Delamo, on écoute un extrait de votre roman.
Une fin de journée, comme il rentrait de l'une de ses virées et traversait le lotissement, il passa devant l'impasse des Ormes. Un détail dans son champ de vision saisit son attention, le fit ralentir et s'arrêter. La porte d'entrée de la maison abandonnée était entrouverte. Une faible lumière s'échappait par l'entrebâillement. La première idée qui lui traversa l'esprit fut que leur effraction avait été découverte par des voisins et que des gendarmes étaient en train d'explorer les lieux. Mais il n'y avait aucun véhicule garé dans l'impasse, aucun signe d'animation. Alex stoppa le moteur du scooter, poussa l'engin vers la maison. Se pouvait-il que l'un de ses amis y soit retourné ou que d'autres gosses du coin y soient entrés ? La lumière fixe, à peine perceptible, ne pouvait être celle d'une lampe de poche. Il n'y avait pas d'électricité dans la maison. Alex en était certain puisqu'il se souvenait d'avoir tenté d'allumer dans l'entrée. Il regarda de nouveau autour de lui pour s'assurer que personne ne l'observait, s'approcha du portillon, tendit l'oreille, à l'affût. Son cœur bondit sous ses côtes. Il aurait juré entendre les notes du lac des cygnes jouées par une boîte de musique provenant de l'intérieur de la maison. Quand il s'avança dans l'allée, il fut frappé par l'odeur de fleurs blanches qu'il avait perçue dans la maison. Il ne l'avait pas oubliée depuis. Un parfum de jasmin ou de lys pourrissant. Mais aussi quelque chose de plus sombre et mystérieux, qu'il imaginait être l'odeur du sexe. Il regarda de nouveau vers l'impasse avec l'espoir que quelqu'un survienne, qu'un voisin sorte et le voie. Maintenant qu'il se tenait près de la porte, il n'y avait plus de doute possible. La mélodie venait bien de l'intérieur. Il fallait qu'il en ait le cœur net. Il entra dans la maison. Les notes s'éteignirent aussitôt pour laisser place au silence. Un extrait de La nuit ravagée, Jean-Baptiste Delamo, votre roman paru aux éditions Gallimard, qui vient d'être lu par Jeanne Aléos. C'est l'un des franchissements, c'est l'une des entrées, mais donc on aurait pu en lire plusieurs puisque ça se répète. Ils viennent vivre quelque chose, presque d'une manière assez irrépressible, petit à petit, dès lors qu'ils ont connaissance de cet espace-là. Comment on pourrait le décrire autrement qu'en utilisant des mots qui appelleraient l'imaginaire de la maison hantée ? Parce que c'est ça. Ok, ça je crois que, on va dire, toutes les personnes qui nous écoutent peuvent se dire « Ok, je vois ce que c'est une maison hantée ». Sauf que votre maison hantée, Jean-Baptiste Delamo, elle est un petit peu plus qu'une maison hantée. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre comme mot sur cet espace que vous finissez par créer ?
Alors tout d'abord, inévitablement, en m'aventurant sur cette mythologie de la maison hantée, je savais que je rentrais sur des terres extrêmement codifiées. Je crois que la maison hantée et le fantôme existent quasiment depuis les prémices de la littérature et de la fiction. Ce qui m'intéressait, c'était de voir de quelle façon est-ce que je pouvais non pas balayer ces codes d'un revers de la main, parce que j'ai beaucoup d'estime pour ces représentations-là, tant en littérature qu'au cinéma, mais essayer de les faire miens et de me les approprier, oui, un peu différemment. Donc j'ai pensé que finalement cet univers qu'ils vont découvrir à l'intérieur de la maison pouvait être un univers organique qui se nourrirait et se construirait de leurs rêves, de leurs peurs, de leurs obsessions, en tentant finalement d'assimiler leur expérience pour advenir, pour se produire, pour exister.
Oui, il y a même une jeune fille qui dit « J'ai l'impression qu'elle se sert de nos peurs et de nos désirs en parlant de la maison. » La maison qui devient une entité agissante, qui n'est pas seulement que des murs figés dans une époque passée, mais plus ça va, plus en effet, c'est presque la comparaison qui me vient, mais c'est complètement débile, mais c'est presque une intelligence artificielle, c'est qui va se nourrir de leurs désirs, de leurs peurs, de leurs angoisses, et aussi leur proposer un espace, moi c'est ça que j'ai trouvé assez beau, où les choses peuvent se jouer ou se rejouer, Jean-Baptiste Delamo, un peu à part du réel, même si petit à petit les frontières deviennent un peu floues, comme un espace mental. Enfin, plus ça va, plus la maison elle devient abstraite d'une certaine façon.
Oui, absolument. Je trouve ça super intéressant que vous parliez d'intelligence artificielle.
Ça m'est venu à l'instant, ouais. Alors que j'avais plus pensé à des notions comme vraiment l'inconscient, la rêverie et tout, mais d'un seul coup, je me dis. C'est vous qui dites ça, c'est un espace nourri. Je me dis, c'est comme ça qu'on fait avec les...
Quand on voit passer, je pense qu'on a tous vu passer des vidéos tout à fait improbables générées par l'intelligence artificielle, des vidéos assez fantasmagoriques qui voient genre un ours polaire apparaître dans un bac de glace à la vanille ou des choses comme ça. Souvent, en fait, ce qui m'épate dans ces vidéos, c'est qu'elles ont la texture du rêve, où les choses sont sans cesse changeantes, où ce qui est familier un instant ne l'est plus la seconde après. Et je trouve que l'intelligence artificielle a déjà réussi à singer, imiter quelque chose de notre inconscient. Et c'est aussi ce que va faire effectivement cette maison, cet espace, ce qui s'y terre de l'autre côté, cette réalité alternative qui va s'approprier l'inconscient de ces gamins, leur donner parfois l'impression de satisfaire des désirs, de surmonter des deuils, de laisser un espace possible où peut éclater leur violence sans que ça n'affecte a priori leur réalité. Et finalement, cette expérience d'une forme d'intensité, elle va leur devenir de plus en plus désirable. Ils vont y revenir, ils vont se faire happer au point de ne plus pouvoir bientôt distinguer leur propre vie de ce qui se passe à l'intérieur.
Et ça, c'est quand même l'une des tensions du roman, je le disais en introduction, c'est l'idée qu'on n'est plus complètement sûr de ce qu'on a vécu et donc on n'est pas non plus complètement en capacité de le raconter. C'est l'une des tensions romanesques que vous mettez en place, Jean-Baptiste Delamo. Et cela... que ce soit positif ou négatif, c'est-à-dire qu'il va y avoir, un adolescent ou une adolescente qui va avoir rendez-vous avec une morte, quelqu'un qui va avoir rendez-vous avec une homosexualité qui parfois est refoulée, il y a quelqu'un qui va avoir rendez-vous avec son harceleur, et il y a quelque chose qui va leur permettre de, comme de faire une sorte de mise au point sur ce qu'ils peuvent vivre dans le réel, j'espère que je suis claire, et en même temps troubler leur capacité d'entendement, de discernement, et notamment à dire. Moi, j'ai été très touchée par le fait que ces adolescents, ils sont tous face à la même au même défi. Sont-ils capables de dire ce qu'ils traversent ?
Oui, parce que beaucoup heurtent déjà une forme d'incommunicabilité vis-à-vis de leurs parents, de leur cellule familiale. Mais peu à peu, cette expérience-là, ce qu'ils vont vivre à l'intérieur, comme souvent ce sont des choses tues, secrètes, honteuses, elle va finalement les séparer les uns des autres. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'ils seront en mesure de se dévoiler aussi les uns par rapport aux autres. Quand j'ai conçu le roman, il était important pour moi que la première scène, elle annonce clairement qu'on mettait les pieds dans un roman fantastique et que j'assumerais ce parti pris du genre. Je ne voulais pas juste rendre un hommage tiède à ce genre que j'aime profondément, mais je voulais aussi que finalement le fantastique, l'onirique, le fantasmagorique contamine à la fois la structure même du livre, la réalité de ces personnages et de ces gamins, et aussi quelque part l'imaginaire du lecteur. Je me disais que si à un moment donné le lecteur était conduit lui-même à se demander ce qu'il trouverait dans cette maison, le pari serait peut-être gagné.
Vous parlez de vos personnages, tout à l'heure vous avez aussi souligné leur arc narratif, leur parcours dans la fiction. On va écouter Elsa, auditrice du Book Club, elle vous a lu avec grand plaisir et elle vous adresse une question à leur propos.
Bonjour le Book Club, bonjour Jean-Baptiste Delamo, j'ai lu votre livre La Nuit Ravagée et ça a été un de mes plus gros coups de cœur du printemps. C'est un magnifique roman que vous nous avez offert sur la culpabilité, les regrets, les peurs, les secrets qu'on cache même à ses meilleurs amis quand on est adolescent. Et vraiment, merci pour ça. Moi j'avais une petite question à vous poser. Je voulais savoir quel était votre personnage préféré, parce que je n'arrive pas à choisir de mon côté. Merci pour votre réponse et encore merci pour cette magnifique lecture.
Merci à vous Elsa, elle est super cette question, Jean-Baptiste Delamo.
Merci Elsa, je me suis beaucoup attaché à tous ces personnages parce qu'ils sont en grande partie façonnés d'une grande part de mon adolescence, mais je crois que mon personnage préféré c'est peut-être celui de Léna, qui pour moi est la véritable héroïne de ce roman.
Quand elle arrive, elle fait bouger les choses, c'est quelque chose quand elle arrive.
Elle fait bouger cette bande de garçons, elle a une forme de liberté, de pensée, une puissance de vie, un courage que eux n'ont pas. Et c'est sans doute l'ami que j'aurais voulu avoir à cet âge-là.
Et que vous n'avez pas eu, et ça fait quelque chose d'écrire un personnage qu'on aurait aimé avoir dans sa vie ? Parce que souvent, on peut dire que, tout à l'heure, vous avez dit, la littérature n'est pas là pour nous faire du bien, mais peut-être du côté de l'écriture, écrire, ça peut éventuellement avoir cette vertu-là, de produire des mondes ou de produire des êtres qu'on n'a pas rencontrés.
C'est vrai. J'ai connu des amis, filles, donc, qui, pour moi, incarnaient cet aspect libre, quelque chose vers quoi j'aurais aspiré pouvoir aller, être capable, en fait. Mais cette Léna, je sais pas, je pense qu'elle m'a consolé aussi d'une certaine façon, parce que j'ai l'impression que c'est un personnage qui est capable de tout entendre, de tout recevoir. Et c'est comme si j'avais inventé cette amie à 25 ans de distance, et que pourtant, le temps de l'écriture, je lui avais donné corps et je lui avais donné vie, parce qu'elle a vraiment existé pour moi.
Et pourtant, elle n'est pas du tout du côté de l'insouciance. Elle aussi, elle fuit une situation familiale extrêmement difficile, extrêmement violente. On peut dire que c'est quelque chose que vous faites se rencontrer pour chacun des êtres que vous balancez dans cette fiction. Jean-Baptiste Delamo, je l'ai dit rapidement, mais le harcèlement scolaire, le deuil d'une maman, le cancer, la conscience du sida, la découverte contrariée, pour le dire doucement, de l'homosexualité. Chacun et chacune de ces adolescents vit des choses difficiles, vraiment difficiles.
Oui, mais qui à la fois, je crois, étaient des drames très ordinaires bien dans sûr. Les années 90. Et ces gamins-là, ils vont devoir tenter de dépasser finalement ces souffrances de façon collective, en faisant bande. Et j'étais très touché en recevant certains messages de lecteurs qui sont de ma génération et qui me disent qu'ils ont grandi avec ce sentiment de ne pas avoir eu de culture commune, de ne pas avoir appartenu à une génération. Et qu'en lisant le livre, ils ont compris qu'en fait, même si ces repères-là n'étaient pas forcément évidents pour nous à l'époque, on avait cette culture commune, on avait quelque chose qui nous liait à travers ces drames intimes, à travers ce qui nous menaçait à l'époque, à travers cette forme de langueur, d'empêchement que nous ressentions. Et c'est ce que je pense avoir, là aussi, sans doute obscurément, mais voulu tenter de partager avec ce livre-là.
Ils ont tous et toutes quelque chose, et nous tous en effet, dans un rapport avec la mort, avec l'au-delà, avec celles et ceux qui ont disparu. On va écouter la voix de l'anthropologue Grégory Delaplace. Il a travaillé sur les fantômes, il a travaillé aussi précisément sur les maisons hantées. Ici, il est au micro de Nora Hammadi en 2023.
Chaque culture charrie avec elle et transmet un certain nombre d'idées sur l'au-delà, sur le sort des morts après leur décès, sur les possibilités de communiquer avec eux, mais surtout, en fait, organise des conditions de possibilité de relation avec les morts. À quelles conditions on peut entrer en relation avec les morts, avec quels risques et avec quels espoirs? Qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à une apparition? Là, chaque culture a des réponses différentes, et c'est pas tant dans les idées qu'elle a culturellement qu'elles font la différence, c'est dans les moyens qu'elle donne pratiquement pour y faire face. Donc chaque culture a un spectre de possibles face aux morts et souhaite mettre les morts à leur juste place, et cette place varie. Une fois qu'on a abandonné la croyance comme clé de compréhension de ces phénomènes, on se rend compte que ce que ces apparitions produisent, ce sont des discontinuités. Des discontinuités dans la capacité de percevoir le monde, des discontinuités dans la façon de l'habiter, et donc des discontinuités dans le collectif qui pensait habiter le même monde ensemble. Là, manifestement, en fait, des personnes qui ont perçu du monde plus que les autres habitent pas tout à fait de la même manière que leurs voisins les mêmes lieux. Et donc, ils deviennent un tout petit peu relativement étrangers par rapport à ceux dont ils croyaient partager le monde. Ils n'habitent plus tout à fait le même monde.
Ça aussi, c'est une des tensions de votre roman, Jean-Baptiste Delamo, être capable de vivre un peu plus que la vie. C'est ce que font ces adolescents en se rendant dans la maison hantée, d'être un peu plus en contact avec l'au-delà, avec les morts, avec la menace de la finitude. Grégory Delaplace s'intéresse beaucoup à la place des fantômes dans notre culture, comme notre capacité à être en médiation avec ces mondes-là. Est-ce que vous diriez que c'est aussi ce que travaille fortement ce roman-là, La Nuit Ravagée ?
Oui, et sans doute la littérature en général, le roman et les œuvres de fiction, en écoutant Grégory Delaplace, cette question de discontinuité, d'expérience à côté du réel. Peut-être que les livres aussi sont des portes ouvertes sur les fantômes, voire des fantômes eux-mêmes. Ils mettent en scène des fantômes, ils ouvrent des espaces parallèles, ils nous font éprouver d'autres expériences subjectives à côté du réel. Et si La Nuit Ravagée peut offrir aussi cette expérience, cela, je ne peux que m'en réjouir, évidemment.
D'ailleurs, Grégory Delaplace, il raconte souvent que des nouvelles inventions technologiques ont souvent porté avec elles, au moment de leur création, la radio comprise, l'espoir d'entendre les fantômes. Tout à l'heure, on a parlé des bandes magnétiques, mais dans votre livre, il y a une adolescente qui fait des photographies. Et évidemment, le moment de l'invention de la photographie a été aussi nourri de l'espoir de voir apparaître sur le papier photographique des présences spectrales. Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans cette idée-là de, oui, cette jeune femme qui fait des photos, encore il y a l'idée d'atteindre un monde un peu entre deux, quoi.
Oui, c'est toujours cette recherche, je crois, que l'humanité a eu de percer un des plus grands mystères de notre humanité, bien évidemment, ce mystère de la mort, mais aussi cette possibilité d'ouvrir sur d'autres possibles. Je crois que c'est ce que fait la fiction. C'est pour ça aussi que je suis un lecteur très assidu de littérature latino-américaine, parce que cette limite entre le monde des vivants et le monde des morts est beaucoup plus poreuse chez eux dans leur fiction, sans doute parce qu'ils ont cet héritage du réalisme magique. Les morts cohabitent avec les vivants, et je trouve que leur littérature se nourrit assez brillamment de ça, en particulier des voix féminines aujourd'hui, des autrices qui à la fois écrivent des livres qui parlent de ce qu'est notre monde contemporain sur des sujets extrêmement précis, d'actualité, mais qui les explorent de manière très différente en ayant recours au magique, au fantastique, au merveilleux. Et voilà, pour moi, c'est une ouverture d'esprit formidable.
Depuis le début de cet entretien, vous répondez souvent en parlant de la fiction et de la littérature, Jean-Baptiste Delamo, en témoignant de ce que vous y avez pensé. C'est-à-dire que pour vous, réfléchir à ce que peut être ou ce que doit être la littérature et la fiction, ça semble faire partie de votre travail. À la fin du livre, vous mentionnez aussi des conversations que vous avez eues avec Yakutali Kavazovic ou avec Tristan Garcia. Est-ce que ça fait partie de votre parcours, ce travail-là ? C'est-à-dire qu'il y a écrire des romans et puis il y a penser à ce que c'est qu'écrire des romans ?
Je pense que je ne suis capable de penser les romans qu'en les écrivant et a posteriori en essayant de contempler et de comprendre ce que j'ai voulu faire. Ce qui est certain, c'est que j'ai le sentiment qu'en renonçant peut-être un peu aujourd'hui à l'écriture de l'imaginaire, on renonce aussi à notre capacité collective d'inventer d'autres possibles, d'autres récits possibles. C'est pourquoi
politiquement y compris.
Oui, absolument. C'est pourquoi je crois qu'il est urgent de défendre la fiction, de défendre l'imaginaire, et que c'est ce que je recherche en tant que lecteur, c'est ce dont je me nourris aussi. Parce que pour moi, c'est un espace aussi de respiration qui rend le monde habitable et la vie possible.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et à cette heure-ci dans le Book Club, c'est l'heure de vous retrouver. Fanny Taillandier, bonjour.
Bonjour.
Ça fait 6 semaines que vous êtes en résidence au Book Club pour cette chronique qu'on appelle lecture d'actualité. Je rappelle le principe, il s'agissait de sortir des livres de votre bibliothèque en fonction de l'actualité. Et vous l'avez fait aujourd'hui. Petit bilan de l'exercice avec ce titre, Imparable, 50 coups de couteau, Claude Simon et le chaos du monde, Fanny.
Et oui, merci de m'inviter pour cette dernière chronique de France Culture en forme effectivement de mini-bilan et de ces quelques lundis occupés à scruter l'actualité de notre petit hexagone avec des livres à l'intérieur. Quand je suis arrivée il y a 6 semaines, je m'étais promis 2 choses pour commencer ces chroniques. D'abord, ne pas être déprimante, puisqu'on n'est pas là, nous autres artistes, pour plomber l'ambiance dans la société humaine. On est là pour enchanter les hauts faits comme des aèdes ou des griots, ou corriger ses travers par le rire, castiga tridendo mores, comme l'apprennent les lycéens chaque année, ou pour placere docere movere, toujours en latin, ça fait plus chic, plaire, enseigner, émouvoir, bref, pas pour plomber l'ambiance. Donc, m'étais-je juré, pas de chronique trop sombre. D'autre part, m'étais-je aussi promis, tu te cantonnes à l'hexagone, Taïtaï. Commence pas à vouloir parler de toutes les atrocités
débiles. C'est Taillandier, c'est ça?
Taïtaï, c'est moi. Ne commence pas à vouloir parler de toutes les atrocités, débilités, indignités autour du globe. Je vais y arriver. Ne commence pas à vouloir te coltiner avec les dictateurs, les génocidaires, les tarés détenteurs de bombes ultra puissantes. Parce que t'es qui d'abord pour t'emparer de ces sujets? Et puis la France, de toute façon, c'est déjà suffisamment le bazar, avec suffisamment de personnages malfaisants, suffisamment d'inégalités criantes, suffisamment de bêtises et de cruautés mélangées. Donc pas de déprime et l'hexagone.
Et c'est ce que vous avez fait, en effet. Avec vous, on a parlé en 6 lundis d'efforts de guerre avec Thomas More. On a parlé Azeux avec Marguerite Audoux, OQTF avec Benjamin Fondane, Racisme avec Chester Rhymes et RN avec Nathalie Quintane.
Mais oui, j'avoue que pour cette ultime chronique, que j'espérais triomphale, un découragement m'a saisi. Pas déprimant, d'accord, mais comment faire avec les actualités, puisque cette semaine, on a eu 50 coups de couteau à l'école, 50 coups de couteau à la prière, 5 millions de pauvres en France, 40 milliards du budget de l'État en moins, 100 milliards d'évasion fiscale. Et au-delà des chiffres, de toute façon, la guerre est à nos portes et la guerre s'importe. Donc quand bien même vous vouliez parler uniquement de ce qui se passe en France, vous retombez sur les conflits qui lézardent l'humanité, avec à la clé la peur, la colère, la haine. Bref, je me suis arraché les cheveux toute la semaine, avant qu'enfin, dimanche, à l'aube, la solution ne descende sur moi, telle une Pentecôte spéciale chroniqueuse désespérée.
C'est pratique. Et quelle fut la solution, Fanny ?
La solution, ce fut La route des Flandres, de Claude Simon. La route des Flandres, c'est une route sous un soleil de plomb, toute droite, cauchemardesque, où tournent en rond des cavaliers cherchant le front. Le front ? Pauvre con, mais il n'y a plus de front, dit l'un d'eux. Et sur les bords de cette route s'entassent au hasard des bombes et des fuites, des carcasses humaines, animales, automobiles. Puis le récit tout entier, lui aussi éblouissant et labyrinthique, semble mener tout droit, à travers les prisons et les chambres à coucher où se noue l'intrigue du livre, à une course de chevaux à l'hippodrome. Une seule phrase peint alors en quatre pages la foule des visages venus au bord du champ de course. Les uns ayant amassé des fortunes colossales, je cite, par violence, par ruse ou contrainte, exercées de façon plus ou moins légale et sans doute plus que moins si l'on tient compte que le droit, la loi, ne sont jamais que la consécration, la sacralisation d'un état de force, fin de citation, et les autres venus tenter d'accaparer les mêmes fortunes, petites gens, par ailleurs, vieilles mondaines, toute une autre faune talonnant la première et à ses trousses. Et dans ce parcours halluciné le long de la route des Flandres se superposent ainsi les deux images des chevauchées, l'une guerrière et grotesque, l'autre ludique et tragique. Et elles forment celle du monde, ce chaos où, dit Claude Simon, l'homme ne connaissait que deux moyens de s'approprier ce qui appartient aux autres, pardon, la guerre et le commerce. Et il choisissait en général tout d'abord le premier, parce qu'il lui paraissait le plus facile et le plus rapide, et ensuite, mais seulement après avoir découvert les inconvénients et les dangers du premier, le second. Claude Simon, donc, quoi qu'en dise la critique qui s'obsède généralement de son usage du gérondif et de la virgule, a donné un but à la littérature, recoller ensemble les morceaux de notre humaine condition. Animal, politique, cheval, soldat, prison, amour, Paris, errance. Lire Claude Simon, c'est accepter de se laisser emporter. C'est reconnaître que l'histoire nous cravache et nous force à courir, et regarder le paysage qui court avec elle jusqu'à la fin du livre, que je vais citer d'ailleurs. Et cela ainsi de suite. La guerre, pour ainsi dire, étale, pour ainsi dire, paisible autour de nous. Le canon sporadique, frappant dans les vergers déserts, avec un bruit sourd, monumental et creux, comme une porte de train, comme une porte en train de battre, agitée par le vent dans une maison vide. Le paysage tout entier inhabité, vide, sous le ciel immobile. Le monde arrêté, figé, s'effritant, se dépiautant, s'écroulant peu à peu par morceaux, comme une bâtisse abandonnée, inutilisable, livrée à l'incohérent, nonchalant, impersonnel et destructeur travail du temps.
Fin de citation. Une forme de philosophie désabusée de la littérature, Fanny ?
Oui, mais pas seulement, parce que je crois que Claude Simon nous propose d'accepter que nos vies soient régies par ce tumulte qui est celui de la cupidité et de la violence. Mais il y construit un ordre, celui qui donne la conscience mue par le désir de comprendre ou le désir d'aimer. Et c'est ça la vraie littérature, c'est celle qui admet le monde et ce qui se confronte à son chaos. Parce que ce chaos, mis en mots et en phrases, permet de comprendre les autres, loin ou près. Ceux qui sont dans les guerres, ceux qui sont dans les prisons, ceux qui aiment ou qui désespèrent. Et ça, c'est peut-être le meilleur rempart possible à l'indifférence et au dégoût qui nous prennent devant les informations et font advenir les monstres. Donc un livre à lire comme toute bonne lecture d'actu, Marie, avant de regarder les actus.
Merci infiniment, Fanny Taillandier, pour avoir été avec nous ces 6 dernières semaines. La route des Flandres de Claude Simon, ce sera le dernier livre que vous avez sorti de votre bibliothèque. Ça me permet de faire signe à Romain de Begdelièvre qui un jour me l'offrit pour mon anniversaire. Et je voulais aussi citer un livre qui est apparu il y a quelques années qui s'appelle Les États et Empires du lotissement Grand Siècle. C'était en 2016 aux Presses universitaires de France. Mais comme souvent on dit que les lotissements ne sont pas ou peu représenté dans la littérature, je pense toujours au livre de Fayandier, de Fanny Fayandier. Allez, ta taille.
Taille Fayandier.
Lecture d'Actu France Culture.fr. Merci, Fanny. À cette heure-ci, dans le Book Club de France Culture, on joue au grand jeu des pages musicales. Il s'agit, Jean-Baptiste Delamo, d'inviter nos auditeurs et auditrices et nous-mêmes à chercher de la musique dans les livres. C'est un jeu qui nous amuse beaucoup. On a dit tout à l'heure quelle place vous aviez donnée aux chansons, à la musique, à l'univers sonore, notamment pour retracer une époque. Je rappelle que vous pouvez nous envoyer vos extraits de lecture via l'adresse mail lebookclub@radiofrance.com. C'est aussi là que vous pouvez nous écrire ou envoyer ces photos à Alex qui organise toute la conversation autour du Book Club, le compte Instagram, le Book Club de France Culture. On termine donc avec un extrait de La Nuit Ravagée. Check, 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 check. Les garçons de la bande aimaient griller un ou deux pétards. S'allonger sur le toit en fibre au ciment d'un arrêt de bus ou dans l'un des vieux canapés qu'ils avaient installés dans les anciennes serres et chercher sur un radiocassette à pile un des tubes qui passaient sur les ondes et les faisaient planer. Under the Bridge des Red Hot Chili Peppers, Rape Me de Nirvana ou Wind of Change des Scorpions. Ils prirent aussi l'habitude de fumer au lycée entre midi et deux ou lorsqu'ils avaient une heure de libre. Les cours qui suivaient leur paraissaient alors s'écouler dans une gaze insensible et réconfortante. Ils se défonçaient devant les films d'horreur qu'ils louaient au VIP Vidéo Club le mercredi ou samedi après-midi, après avoir traîné pendant des heures devant les jaquettes de VHS et vivement débattu de celles qu'ils choisiraient de voir ou de revoir, la plupart du temps chez Max ou chez Alex, qui possédaient un poste de télé et un magnétoscope dans leur chambre et dont les parents se foutaient de ce qu'ils regardaient.
Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Delamo d'avoir été avec nous.
C'était un plaisir, merci.
La Nuit Ravagée, c'est le titre de votre roman paru aux éditions Gallimard. On a beaucoup parlé d'adolescents de fiction. Voici des ados, des vrais. Pour un générique spécial, à vous de jouer.
Au son aujourd'hui, c'était Jean-Guilain Meij.
À la réalisation, Vivien Demeyer.
Vous pouvez écouter le Book Club sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Je suis Asia.
Je suis Kenzo.
Moi, c'est Kélia.
Et bonne après-midi. La classe média du collège Turgot de Denain.
Et bonne après-midi sur France Culture.
Bravo.
Chers artistes utopiques,
celui ou celle qui trouvera ce carnet
ne sera pas hors de danger.
Dès qu'on entend les mots journal intime, ça sent l'encre turquoise et le repli sur soi. Mais si on crochète les verrous dorés, on trouve un trésor. Le grand 8 émotionnel de nos vies ordinaires.
Mercredi 29 juillet, première rencontre avec les Khmers Rouges.
Il n'y a personne qui a des sentiments aussi violents que les mères.
J'ai 17 ans et j'écris pour changer le monde.
Le journal de ma vie, une série Les Pieds sur Terre d'Adila Benedjaizou et Clémence Grosse. Retrouvez tous les épisodes sur le site de France Culture et l'application Radio France.